à Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du vendredi 12 octobre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres. Louise Mushikiwabo, jusque la ministre rwandaise des Affaires étrangères, devient la secrétaire générale de la francophonie. Élections municipales et régionales cruciales demain en Côte d'Ivoire. Il s'agit des premières consultations électorales après l'éclatement de la coalition au pouvoir. Les États-Unis, la Turquie et la France mettent la pression sur l'Arabie Saoudite sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Ici aux États-Unis, l'ouragan Michael a causé la mort d'au moins 11 personnes, des centaines de milliers d'autres toujours sans électricité. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, a été nommée secrétaire générale par consensus au dernier jour du sommet à Erevan de l'Organisation internationale de la francophonie. Le point avec Nathalie Barche.
Louise Mushikiwabo a bénéficié du soutien des pays africains et de la France, tandis que Michael Jean n'a été soutenu ni par le Canada ni par le Québec, les plus grands contributeurs de l'OIF après la France. Son élection est une victoire personnelle pour le chef de l'État rwandais Paul Kagame, qui a imposé son choix à ses pairs africains, et pour le président français Emmanuel Macron, qui espère favoriser un rapprochement avec Kigali. Le Rwanda avait remplacé en 2008 le français par l'anglais comme langue d'enseignement obligatoire et avait rejoint le Commonwealth un an plus tard. Mais Kigali a vite compris qu'il serait une grave erreur de tourner le dos à l'Afrique centrale francophone en ne privilégiant que des relations avec l'Afrique de l'Est anglophone. Madame Mushikiwabo, qui n'est pas membre du FPR de Paul Kagame, est très populaire auprès des jeunes et elle est reconnue pour son sérieux, ses compétences et son franc-parler auprès de la communauté diplomatique.
Le nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo fait état de 200 cas, dont 125 morts. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'OMS qui s'inquiète de la persistance de l'insécurité dans la région. 20 membres du personnel de santé ont contracté le virus jusqu'à présent. À Beni, il y a des violences entre le gouvernement et les groupes rebelles qui ne visent pas directement les personnes qui répondent à l'épidémie d'Ebola, mais qui empêchent les équipes de fonctionner à 100%, a révélé le porte-parole de l'OMS. En Mauritanie, près de 200 érudits musulmans ont signé une pétition demandant au président Mohamed Ould Abdelaziz de rouvrir un centre de formation théologique fermé le mois dernier. Selon les signataires, la décision du gouvernement de fermer ce centre sert plutôt l'extrémisme et le terrorisme, mais le gouvernement minimise la portée de cette pétition, estimant que seuls 177 érudits sur les plus de 9000 recensés dans le pays l'ont signé. En Côte d'Ivoire, la campagne en vue des élections locales de ce samedi a pris fin ce jeudi à minuit. Quelques 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections municipales et régionales qui ne manqueront pas d'intérêt, selon le correspondant de VOA Afrique à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Les électeurs ivoiriens vont choisir ce samedi leurs conseillers municipaux et régionaux. Ces élections locales vont surtout permettre au nouveau parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, dirigé par Alassane Ouattara, de voir ce qu'il représente réellement sur le terrain depuis le départ du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konabédié, de cette coalition. Preuve de l'importance que le pouvoir accorde à ces élections, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était sur le terrain tout au long de la campagne en vue d'apporter son soutien et celui du chef de l'État à plusieurs ministres. On suivra également de près la dizaine de candidats indépendants proches de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Ces élections locales sont aussi un test pour la commission électorale dont l'indépendance est mise en doute par plusieurs formations politiques. Un double scrutin qui a valeur de test pour les différents partis politiques avant la présidentielle de 2020. Georges Brentuntara, VOA Afrique, Abidjan.
Plus de 800 enfants enrôlés dans la milice civile d'autodéfense qui lutte avec l'armée contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont été libérés selon l'UNICEF. La Civilian Joint Task Force avait pris l'engagement il y a un an de ne plus recruter d'enfants, mais aussi de libérer tout mineur travaillant sous ses ordres dans le cadre d'une feuille de route signée avec les Nations Unies. Et puis l'ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix Desmond Tutu est rentré à son domicile après près de 2 semaines d'hospitalisation. Desmond Tutu, héros de la lutte anti-apartheid, avait fêté ses 87 ans dimanche dernier à l'hôpital où il avait été admis le 27 septembre pour y subir des examens. Les services de sauvetage espagnols ont annoncé avoir secouru en Méditerranée 35 migrants d'Afrique subsaharienne. Ils ont aussi retrouvé 3 corps dans leur navire en perdition. Les sauveteurs recherchent toujours 18 autres migrants qui étaient aussi à bord. Le bateau avait quitté Nador dans le nord du Maroc pour l'Espagne avec un total de 56 personnes. L'Espagne est devenue cette année la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe après que l'Italie a fermé ses frontières sous la houlette de son ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pression monte sur l'Arabie Saoudite au sujet de la disparition il y a 10 jours du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à l'ambassade saoudienne en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est monté au créneau. Donald Trump, le président américain, également, mais il se montre jusque-là opposé aux sanctions qui toucheraient la vente des armes des États-Unis à l'Arabie Saoudite, son allié. Le point avec Eddie Isongo.
Le président Donald Trump continue de réclamer des explications à l'Arabie Saoudite. Son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, prévient que son pays ne va pas rester silencieux. La Maison-Blanche et le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, se sont entretenus avec les princes héritiers Mohamed Ben Salman. Washington a aussi demandé à l'ambassadeur saoudien rentré dans son pays d'apporter des informations à son retour aux États-Unis. Cependant, le président américain a d'ores et déjà exclu un gel des ventes d'armes américaines à Riyad. Les Saoudiens payent 110 milliards de dollars et M. Trump ne voudrait perdre ses marchés au profit de la Russie ou de la Chine. Ankara et Riyad se disputent sur d'éventuelles vidéos. Côté turc, des images de vidéosurveillance tournées à l'extérieur du consulat diffusées dans les médias montrent les journalistes entrer au consulat sans jamais en ressortir. Les Saoudiens ont rétorqué que les caméras de leur mission à Istanbul ne fonctionnaient pas ces jours-là.
Un tribunal turc a remis ce vendredi en liberté le pasteur américain Andrew Brunson. Ce tribunal l'a condamné à 3 ans et 1 mois de prison. Il a donc été libéré en tenant compte du temps qu'il a déjà passé en prison et de son comportement pendant son procès. Une crise diplomatique provoquée par sa détention entre Ankara et Washington a entraîné un effondrement en août de la livre, la monnaie turque, et mis en lumière les fragilités de l'économie turque. Andrew Brunson a toujours nié les accusations de soutien à des organisations terroristes. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce vendredi à Barcelone pour célébrer la fête nationale espagnole. Ils ont exprimé leur rejet des dirigeants indépendantistes qui ont mené il y a un an la Catalogne au bord de la sécession, brandissant de très nombreux drapeaux espagnols et scandant « Vive l'Espagne et vive le roi ». Les manifestants ont réclamé l'unité de l'Espagne. Le procès des dirigeants séparatistes inculpés de rébellion doit s'ouvrir en janvier prochain. Toujours pas de progrès dans les négociations entre Londres et Bruxelles sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a jugé ce vendredi qu'il fallait encore des progrès substantiels avant de trouver un accord sur le Brexit, estimant que la question de l'Irlande, notamment, était ultra difficile. Toutefois, il se veut optimiste, ceux qui mettent tout leur pion sur l'hypothèse d'un désaccord se trompent. Il faudra trouver un accord et je crois que nous le trouverons, a-t-il dit. Rétrogradé en tempête tropicale, l'ouragan Michael a causé la mort d'au moins 11 personnes depuis son arrivée sur les côtes de la Floride. Les détails avec Nani Talani.
Les autorités ont annoncé le décès de 5 personnes dans l'État de la Virginie. En Floride, 4 personnes sont mortes selon le bureau du shérif du comté de Gadsden. Dans l'État voisin de Géorgie, Une fillette de 11 ans a été tuée mercredi et en Caroline du Nord, une personne a perdu la vie lorsqu'un arbre s'est effondré sur une voiture. Michael a semé la désolation sur son passage. Le département des urgences en Virginie ajoute que 520 000 foyers sont privés d'électricité. En plus, les inondations, les arbres déracinés, les routes coupées et les décombres vont affecter le quotidien des populations. Les consignes d'évacuation avant l'arrivée de l'ouragan Michael ont probablement sauvé de nombreuses vies. La reconstruction se fera après les opérations de sauvetage et de déblaiement effectuées par des milliers de soldats de la garde nationale et des secouristes. Michael, dégradé en tempête tropicale, a balayé hier la Virginie et s'éloigne maintenant du territoire américain.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique à présent, c'est dans la minute éco présentée également par Nani Talani.
Le Burkina Faso a adopté un projet de loi de finances rectificative pour l'exécution du budget 2018 avec une réduction de 392 millions de dollars. Le niveau de déficit budgétaire passe à 396 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 6,42%. Rapporté au PIB nominal, le déficit se situerait à environ 5%. Le gouvernement du Japon accorde au Libéria une aide alimentaire de 2,7 millions de dollars sous forme de riz. Le ministre libérien des Affaires étrangères, M. Findlay, a également réitéré l'appel de son pays à l'aide bilatérale du Japon dans les domaines du logement et la construction d'un marché dans la ville de Pennesville. La Tunisie bénéficiera de la Banque africaine de développement d'un prêt de 75 millions d'euros ainsi qu'un don de 1 million d'euros pour financer la première phase du programme d'assainissement des petites communes de moins de 10 000 habitants. Cette opération a pour objectif d'améliorer le service d'assainissement de 33 petites communes réparties sur 19 gouvernorats. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari demande au Parlement d'approuver l'émission de 2,79 milliards de dollars d'euros obligations destinées à financer le déficit budgétaire et des projets d'infrastructure.
Et c'est l'heure des sports avec vous, Yacouba Traogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane, bonsoir à tous.
Alors, nous sommes de plein pied dans la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.
Tout à fait, Abdou. 10 matchs au programme de ce vendredi, dont un certain Cameroun-Malawi. Après des débuts compliqués avec un match nul concédé aux Comores 1-1 le mois dernier, le Cameroun du nouveau sélectionneur Clarence Seedorf s'est imposé à domicile face au Malawi 1-0. Déjà qualifié pour la CAN 2019 en tant que pays organisateur, le Cameroun a dû se contenter d'un but signé de Maxime Choupo-Moting à la 63e minute. A noter également que Paul-Georges Ntep a effectué sa première apparition sous le maillot des Lions Indomptables. Le Ghana s'est aussi refait une santé grâce à son succès 3-0 devant le Soudan du Sud. A noter aussi la précieuse victoire de l'Angola face à la Mauritanie, 4-1.
Et cette troisième journée se poursuit demain.
Et là aussi, il y a 10 matchs au programme. Entre autres, le Nigeria reçoit la Libye dans le groupe E. Duel au sommet entre deux co-leaders du groupe G, la RDC et le Zimbabwe. Le Burkina Faso voudra se racheter devant son public face au Botswana après son humiliation par la Mauritanie lors de la deuxième journée 2-0. Situation identique pour le Sénégal qui fait face au Soudan après le 1-1 à Madagascar. Opération confirmation pour les Lions marocains de l'Atlas qui jouent les modestes Comoriens à Casablanca. À suivre aussi Afrique du Sud, Seychelles, Ouganda, Lesotho, Guinée équatoriale, Madagascar, Mozambique, Namibie et Tunisie, Niger.
Et dans le reste de l'actualité sportive, Patrice Neveu est proche du Oréa.
Alors qu'il avait entamé la semaine dernière des discussions avec le Mouloudia Club d'Alger, Patrice Neveu devrait finalement s'engager avec le Oréa Athletic Club. Le technicien français est présent à Conakry pour discuter avec les dirigeants du champion en titre de la Guinée. Ancien sélectionneur du Sili, Neveu aurait privilégié le club de Matam qui sort de 3 ans sous les ordres de Victor Mvuka, avec notamment un quart de finale historique de la Ligue en Ligue africaine. En Ligue africaine des champions, bien sûr, Abdou.
Voilà, on y arrive. Et puis, on termine rapidement avec le Ghana qui affûte ses armes pour la Coupe du monde féminine de moins de 17 ans.
Il y a les Black Maiden sont logés au centre d'excellence du football à Pram-Pram depuis maintenant 6 semaines et continuent donc leur préparation. Elles sont logées dans le groupe A. Les Ghanéennes affronteront le pays hôte, l'Uruguay, ensuite la Finlande et la Nouvelle-Zélande.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a été désignée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie pour un mandat de 4 ans par les chefs d'État et de gouvernement réunis lors du sommet d'Evran. Que peut-elle apporter à la francophonie? Morgane Guiriec a joint à Kigali Olivier Nduhurungirehe, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est. On l'écoute.
Louise Mushikiwabo, c'est une femme brillante, expérimentée, qui a 9 ans comme ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Louise Mushikiwabo a bien sûr exercé cette fonction dans une période où le Rwanda a connu, je dirais, des succès diplomatiques dans le monde et en Afrique. Et aujourd'hui, elle était même présidente du Conseil exécutif de l'Union africaine parce que le Rwanda dirige cette organisation pour le moment.
Une grande expérience dans les affaires diplomatiques, mais quel lien avec le français et la francophonie?
Le Rwanda est un pays membre de la francophonie. Le Rwanda n'a jamais quitté la francophonie. C'est une occasion pour Louise Mushikiwabo de promouvoir le rayonnement du français, qui est une langue, je dirais, africaine, puisque plus de la moitié du continent parle français.
Alors justement, comment est-ce qu'elle compte renforcer la francophonie? Quel est son programme?
Promouvoir le rayonnement de la langue française, l'échange d'expériences entre membres de la francophonie, et puis il y a aussi, et elle a insisté sur ce point, l'emploi des jeunes. Les jeunes francophones ne sont pas éloignés du français en tant que langue, mais qui se sont éloignés de la francophonie.
Revenons quand même sur le Rwanda, hein, un pays qui finalement a décidé de faire de la langue anglaise sa langue, aux dépens du français, non?
La langue nationale au Rwanda, c'est le Kinyarwanda. C'est la langue unique qui est parlée par tous les Rwandais, ce qui est différent de beaucoup de pays africains. Le français était une langue officielle et qui était la langue d'éducation. Mais pour des raisons historiques, le Rwanda a décidé de faire de l'anglais la langue d'éducation sans pour autant supprimer le français. Le français est une langue enseignée comme matière. Le Rwanda est membre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et dans cette organisation, la langue officielle et la langue de travail, c'est l'anglais. Et donc, il était important pour le Rwanda de s'inscrire dans cette dynamique régionale, mais aussi de comprendre que l'anglais était une langue qui était en train de s'imposer au niveau international dans les affaires, etc. Mais cela ne signifie pas que le français n'est pas une langue importante, surtout en Afrique. Et donc, on va continuer à promouvoir cette langue sur le continent, mais aussi au Rwanda.
Le Rwandais Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à la coopération et la communauté de l'Afrique de l'Est.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. On se retrouve à 18h05 temps universel dans l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, la francophonie a nommé la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de l'OIF. En 2008, le Rwanda a remplacé le français par l'anglais comme langue d'enseignement obligatoire avant de rejoindre le Commonwealth un an plus tard. Que dire sur cette désignation et comment voyez-vous le rôle de la francophonie dans le monde? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Un peu de tourisme dans cette édition. Nous vous invitons à faire un voyage au Sénégal et plus précisément à quelques kilomètres de Dakar, la capitale, où se trouve le lac Rose. John Lyndon, notre envoyé spécial, s'est rendu sur le site pour une visite guidée.
Après quelques 35 kilomètres de route, nous voici donc au lac Rose. Situé au nord-est de Dakar, c'est l'un des sites touristiques les plus visités du Sénégal. Mais pourquoi l'appelle-t-on lac Rose? Hassan, notre guide du jour, explique.
Pourquoi on dit lac rose? Parce que pourquoi un lac est rose? C'est à cause des algues. Avec des micro-organismes, marines s'appellent des batteries. Parce que si vous partez ici, si vous venez ici, à côté du lac, sur le surface du lac, si vous y en a du soleil, avec du vent, tu vois beaucoup, beaucoup la couleur rose.
Le lac rose doit en effet sa couleur rose à une bactérie qui développe des piquants rouges pour se protéger des eaux fortement salées. Ce lac, à l'origine, ne s'appelait pas Lac Rose. Notre guide Hassan explique.
Avant Audi, pas Lac Rose. Audi, lac très bas. Audi, lac très bas. Oui. C'est à cause de la couleur rose, c'est pour cela, maintenant Audi, Lac Rose.
Avec une superficie de 3 km² et une profondeur de 3 mètres, le Lac Rose est riche en sel. Le sel est exporté depuis les années 1970 dans toute la sous-région. Véritable curiosité naturelle et touristique, le Lac Rose est aussi l'un des sites les plus visités du Sénégal. Notre arrivée sur les lieux coïncide d'ailleurs avec celle d'un groupe de touristes belges.
C'était bien? Qu'est-ce que vous avez aimé alors? Juste un mot?
Les dunes.
Voilà.
Et la mer. C'était magnifique.
Voilà.
Et la village.
Okay.
Tous les gens sont vraiment gentils. Vraiment gentils.
Okay.
À bord d'une vieille Range Rover, nous décidons nous aussi de visiter quelques attractions autour du Lac Rose. D'abord, cette plage qui s'étend à perte de vue, puis ce magnifique coucher du soleil et ses reflets sur le lac, et bien sûr, ces dunes et pistes de sable qui nous rappellent que l'endroit a aussi été le point d'arrivée du rallye Paris-Dakar. Hassan, pour une petite leçon d'histoire sportive.
Ici, c'est le dernier étape de Paris-Dakar. Parce que tu vois, lui, c'est le fondateur de Paris-Dakar. Il s'appelle Kenny Savelle. Il est tombé dans une hélicoptère sur le désert de Mauritanie. Il est tombé. C'est le fondateur de Paris-Dakar. C'est pour cela qu'on met ici le mémoire de Kenny Savelle.
Le Lac Rose dispose de nombreux campements et hôtels prêts à vous accueillir.
Et si jamais vous arrivez de venir visiter le Lac Rose ici, ne manquez pas de venir à cet endroit précis. Il s'agit de dune coquillage où vous pourrez voir à la fois la mer, l'Oasis et puis le Lac Rose. John Lydon, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Jamal Khashoggi, un journaliste critique du pouvoir saoudien, a disparu depuis plus d'une semaine après s'être rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Les États-Unis et la Turquie demandent des explications à Riyad. Une délégation saoudienne est arrivée en Turquie ce vendredi pour évoquer la question avec les autorités turques. Pour analyse, Yacouba Bekraogo a joint au Canada l'universitaire Sami Aoun.
Ce silence est dû au cercle politique et diplomatique autour du monde. C'est que l'Occident a toujours de la misère à équilibrer entre ses intérêts et ses valeurs. Mais en même temps, il y a un manque de responsabilité de la part de la Turquie, qui est un membre aussi proche de l'Occident et allié de l'OTAN. Alors, l'administration Trump, d'autres gouvernements occidentaux tiennent un peu un discours qui pourrait être prudent.
Jamal Khashoggi était un collaborateur du journal américain Washington Post, et ce journal soupçonne le prince saoudien Mohamed Ben Salman, homme fort du régime, d'être derrière cette disparition. Qu'en pensez-vous?
Tous les indices montrent le doigt vers ce prince héritier qui voulait alterner l'image d'un moderniste. En même temps, il voulait s'assurer que son pouvoir a une bonne emprise sur les rouages de l'État saoudien. Ce jeune prince essaie de s'imposer par des méthodes qui se rapportent soit à des régimes autoritaires ou à des personnalités tyranniques. Il en profite parce que le vent au Moyen-Orient souffle contre la démocratie après l'échec au moins momentané du printemps arabe.
Le prince héritier entretient des liens étroits avec de hauts responsables américains, dont Jared Kushner, gendre conseiller du président Donald Trump. N'est-ce pas ce qui est embarrassant dans cette affaire pour Washington?
Certainement, et surtout on revient à une période où les Américains avaient toujours des alliances avec des tyrans, des autoritaires, et qui voulaient les garder au pouvoir.
Pourquoi pourrait-on en vouloir aux journalistes Khashoggi?
Tout d'abord, il y a une lutte entre le courant des frères musulmans. M. Khashoggi a été peut-être soupçonné d'avoir tendance des frères musulmans contre la tendance salafiste wahhabite qui domine en Arabie Saoudite. Alors, il se peut qu'il a payé le prix des accrochages à l'intérieur de la famille royale, mais aussi, un autre point, les les exilés saoudiens, peut-être ce sont des voix qui ne sont plus tolérées lors de la consolidation de l'emprise du prince héritier sur le pouvoir.
En dehors du Canada qui hausse le ton, on n'attend pas grand monde autour. La puissance pétrolière des Saoudiens pourrait-elle justifier cela?
Oui, certainement. Leur pouvoir d'achat des armes américaines. Et surtout, il y a un facteur géostratégique. L'administration Trump alterne des mouvements de isolationnisme, de retrait du Moyen-Orient, mais en même temps un désir de rester là-bas. Ce qu'ils craignent justement, c'est que la Chine et la Russie viennent combler ce vide américain.
C'était le professeur Sami Aoun, joint au Québec. Le compte à rebours a commencé en vue des élections de mi-mandat le 6 novembre ici aux États-Unis. L'âpre bataille pour la confirmation du juge Brett Kavanaugh a galvanisé les militants de chaque camp politique. Les républicains disent que la dispute les a renforcés alors que les démocrates estiment que le débat a enragé l'électorat féminin. Tim Malone, grand reporter de La Voix de l'Amérique, fait le point et son reportage est rendu ici par Lionel Gaïma.
Moi, Brett Kavanaugh, je jure solennellement.
Après l'âpre bataille pour sa confirmation, la prestation de serment du juge Kavanaugh à la Cour suprême est une victoire politique pour le président Donald Trump.
Au nom de notre nation, je veux présenter des excuses à Brett et à toute la famille Kavanaugh pour la terrible peine et la souffrance qu'on nous a forcés à endurer.
Kavanaugh a été confirmé malgré les accusations de méconduite sexuelle qu'il a toujours niées. Maintenant, le président se sert de lui pour mobiliser l'électorat républicain en vue des élections de mi-mandat.
Le 6 novembre, vous aurez la chance d'arrêter les radicaux démocrates. C'est ce qu'ils sont devenus. En élisant une Chambre et un Sénat républicain, nous allons augmenter nos majorités au Congrès.
Les démocrates aussi ont été surchauffés par la bataille Kavanaugh. Des manifestations sont sorties dans les rues, applaudies par des sénateurs démocrates, comme Elizabeth Warren du Massachusetts.
Nous avons élevé les voix de millions de survivantes d'agressions sexuelles. Nous avons refusé d'être ces femmes qui s'assoient et se taisent.
L'intensité de manifestation va déborder sur les élections de novembre, estime Kamala Harris, sénatrice démocrate.
Nous devons utiliser cette semaine pour trouver cette énergie supplémentaire pour nous rappeler qu'au fond, ils ont le pouvoir maintenant, mais nous devons le reprendre.
La bataille Kavanaugh peut insuffler de l'énergie à chaque parti avant les élections, d'après Kyle Kondik de l'Université de Virginie.
Peut-être que cette animosité chez les républicains leur servira de cri de ralliement pour les élections. Mais encore une fois, c'est l'histoire qui le prouvera. Et les sondages nous disent que les démocrates sont plus animés sur Kavanaugh et bien d'autres choses.
La bataille Kavanaugh peut motiver les femmes à voter d'après Jim Kessler, un analyste démocrate.
Il y a un groupe d'électeurs, les femmes âgées, qui soutenaient souvent les républicains et qui maintenant commencent à s'éloigner d'eux. Et je pense qu'elles peuvent devenir un facteur décisif dans ce scrutin.
Mais pour Frank Newport de l'Institut Gallup, Kavanaugh servira à cimenter la base de Donald Trump.
Il regarde les sondages et constate qu'il est au plus bas partout, sauf avec sa base. Alors, il a décidé, poussé par son ego, de juste voir combien il est populaire avec sa base. Et de juste parler à sa base.
Les partisans du président Trump pourront-ils empêcher une déferlante démocrate prédite par certains sondages? En tout cas, le taux de participation sera déterminant lors des élections de mi-mandat du 6 novembre.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, à la console Dan Crafton, présentation Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir. We'll be right back.